Nous parlerons aujourd'hui des souvenirs oubliés. Nous aborderons aujourd'hui les souvenirs oubliés. Vous avez compris que Dieu, que la parole de Dieu est faite de beaucoup de passages qui pour nous sont simples à comprendre. Mais lorsque Dieu vous ramène dans ces passages, vous comprenez vous-même que adorer Dieu demande à rappeler à la mémoire ce que c'est que Dieu. Adorer Jésus-Christ demande à rappeler à la mémoire, à notre mémoire, ce que c'est que Jésus-Christ. Tant que nous n'aurons pas compris ces choses et que nous serons en train de comprendre la Bible comme un livre philosophique que nous commentons, que nous apprécions avec notre intelligence, nous sera difficile de comprendre, même de recevoir de Dieu. Nous lirons notre texte dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 4, du verset 1 au verset 42. Jean 4, verset 1 au verset 42. Je parlais des souvenirs oubliés. Ce passage biblique est l'un des passages les plus lus dans la Bible. Et par ceux qui sont pentecôtistes, pour les versets 23 et 24. Mais ce passage biblique retrace tout simplement la manière de vivre, notre relation, la compréhension que nous avons de notre relation de Dieu, avec Dieu. Et ça retrace aussi ce que les églises, pourquoi les églises se multiplient et ce que les églises pensent. Et je veux dire par là notre compréhension des affaires de Jésus-Christ, de notre relation avec Jésus-Christ, individuellement et collectivement. Nous avons une compréhension souvent erronée de ce pourquoi nous nous appelons chrétiens. Mes amis, je ne crois pas que nous puissions aborder cette nuit la totalité des enseignements qu'il y a dans ce passage. Mais quand nous parlons des souvenirs oubliés, cela veut dire que, en fait, nous devons veiller à nous rappeler à l'esprit l'essentiel de ce que c'est que la parole de Dieu. Mais nous n'avons même pas dans notre esprit que nous vivons que nous vivons toute une vie qui a commencé depuis la création du monde, depuis la création de l'homme. Et pour les chrétiens spécifiquement, depuis que Dieu a rencontré Abraham. Nous satisfaisons de certaines choses qui font que nous croyons que nous sommes vraiment chrétiens. Nous croyons que nous avons atteint l'apogée. Nous croyons que nous avons atteint un niveau de spiritualité appréciable et apprécié de Dieu, alors que nous n'avons pas du tout ce niveau de spiritualité. Je voudrais remercier Dieu qui marche avec nous en s'intéressant à nos problèmes quotidiens, en s'intéressant à notre vie quotidienne. Ce passage commence par une déclaration. Et lorsque vous lisez le passage, vous vous demandez, mais alors, de quoi parle-t-on? C'est tout un chapitre de Jean. C'est la vie de Jésus-Christ avec ses disciples et avec les Israélites. La vie de Jésus-Christ avec les Samaritains et les Juifs, qui sont tous fils de Jacob. Mais le passage commence par ce que l'information que géraient les pharisiens. On dirait que c'est quelque chose qui... Si vous lisez, c'est quelque chose qui est tombé comme un cheveu sur la soupe. Ça commence par le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Jésus était en Judée, donc sûrement à Jérusalem, et il remontait vers le nord, vers la Galilée. Et il sut que les pharisiens avaient appris qu'ils baptisaient plus de disciples que Jean. Toutefois, ce n'est pas lui qui baptisait, mais ses disciples. Nous avons ici des responsables, si je peux dire, de l'Église, qu'on appelle les pharisiens, qui croyaient en la vie éternelle, qui se demandaient plutôt entre Jean et Jésus, qui faisait quoi, et qui étaient en train d'évaluer Jean et Jésus par rapport au nombre de personnes baptisées. Cette information pourrait paraître comme une information en l'air, mais ça montrait comment ceux à qui le salut est destiné, ceux pour qui Jésus-Christ est venu, comment eux, ils appréciaient le travail de Jésus-Christ. Pour eux, c'était à travers, en ce moment-là, le baptême. Les disciples de Jésus eux-mêmes étaient fiers d'appartenir au groupe de Jésus-Christ, puisque c'est eux qui baptisaient plus de gens, plus de personnes que Jean le Baptiste. Ils étaient contents d'accomplir ses rites. Et ils voyaient en cela leur différence. La différence qu'ils faisaient vis-à-vis des pharisiens et des sadducéens. Voici un autre groupe qui est né, conduit par Jésus-Christ lui-même. Voici alors deux groupes qui ont leur appréciation du rôle de Jésus-Christ, de ce que c'est que l'adoration, avoir une relation avec Dieu. Les pharisiens qui étaient restés sur ce que eux, ils comprenaient de la Torah, et les disciples de Jésus-Christ qui étaient fiers de baptiser les gens. N'oubliez pas que Jésus-Christ les avait envoyés même guérir les gens au point où ils voyaient et des esprits tomber du ciel comme des éclairs. Le partage d'aujourd'hui nous prépare pour la Pentecôte, pour la célébration de Pentecôte qui aura lieu dans un peu plus d'un mois. Et si nous n'avons pas une bonne compréhension de la Pentecôte, n'oubliez pas que la Pentecôte elle-même était aussi la fête des Juifs. Au fait, la Pentecôte, ce n'était pas une fête, ce n'était pas parce que c'était pas parce que les disciples de Jésus-Christ ont reçu le Saint-Esprit qu'on l'appelle Pentecôte, mais c'était une fête des Juifs. Ils étaient là pour la Pentecôte. Qu'il y ait eu effusion du Saint-Esprit ou non, la Pentecôte avait lieu. Ils devraient être là pour la Pentecôte. Les Israélites n'étaient pas venus pour recevoir le Saint-Esprit ou bien pour voir une effusion du Saint-Esprit pour appeler ce jour la Pentecôte. Mais ils étaient venus pour célébrer cette fête, qui est une fête des Israélites. J'insiste sur ces choses, je vous dis, des souvenirs oubliés, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui croient que la Pentecôte, on l'appelle Pentecôte parce que c'est plutôt, quand on dit pentecôtiste, c'est plutôt parce qu'il y a eu effusion du Saint-Esprit. Et oui, pour ceux qui le croient vraiment et qui n'ont pas oublié les souvenirs. Mais pour ceux qui l'ont oublié, la Pentecôte n'a aucun sens pour eux. Ici, les pharisiens, eux, pour eux, le sens qu'ils donnaient au travail de Jésus, c'est qu'il baptisait des gens, plus qu'il calculait, plus que Jean. Alors, c'est dans cette réflexion qu'était Jésus-Christ en allant en Galilée. Quand il s'est séparé, il était au bord d'un, il s'est séparé de ses disciples, S'ils comprenaient que leur rôle, c'était de baptiser, ils étaient contents. Et ici encore, les disciples sont allés chercher de la nourriture parce qu'ils avaient tous faim avec Jésus-Christ. Et Jésus-Christ s'est arrêté au bord d'un puits. Et ce puits fait partie du champ que Jacob avait acheté lorsqu'il était revenu de chez son oncle, lorsqu'il avait déjà rencontré Esau et qu'ils avaient fait la paix. Jacob avait acheté un champ, ce champ qu'il va plus tard donner à Joseph lorsqu'il se retrouvera en Égypte, lorsqu'il sera proche de sa mort. Je dis que nous ne pourrons pas, même si on prenait une semaine pour ce chapitre, c'est plein d'enseignements. Les souvenirs oubliés. Il s'agit donc ici de Jésus-Christ qui était sur la terre, promise à Abraham, cette terre sur laquelle Jacob, cette terre que Jacob a quittée à cause de ses querelles avec son frère Esau, et cette terre sur laquelle il est revenu, et cette terre qu'il une portion de cette terre qu'il a acquise pour l'eau, sa propre utilisation et l'utilisation, le breuvage de ses troupeaux. Jésus-Christ a rencontré donc une femme à côté de ce puits et lui a demandé de lui donner de l'eau. Jésus-Christ a même demandé de l'eau à la femme, ce qui complique, la parole de Dieu. C'est comment Dieu retrace la vie de l'homme dans ses relations avec l'homme. Ici, ce n'est pas la femme qui a demandé de l'eau, c'est Jésus-Christ qui a eu soif et qui a demandé de l'eau à la femme. Voici pourquoi, voici une des raisons qui, voici une raison qui fait que et nous jugeons la parole de Dieu au premier degré et nous ne voulons pas changer. Au fait, il y a d'abord la question de la nourriture. Les disciples sont allés chercher de la nourriture. Jésus-Christ a faim. Maintenant, il a soif. Vous verrez que la question de l'eau sera réglée. Et puis, il y aura la question de la nourriture. Jésus-Christ a demandé de l'eau à une femme. Je me dis que nous sommes peut-être comme cette femme qui n'a pas oublié qu'elle est samaritaine, qu'elle est fille, arrière-petite fille de Jacob. Il n'y a personne parmi nous qui dit qu'il n'est pas de Dieu, qu'il n'est pas de Jésus-Christ. Et ce que la femme a gardé comme héritage, qui est rentré dans sa discussion avec Jésus-Christ, c'est le puits que Jacob a laissé. Le puits. Elle a pour souvenir le puits que Jacob a laissé. Elle a pour souvenir la montagne sur laquelle les Samaritains adorent. D'abord, il y a la question du baptême. De ceux qui se croyaient privilégiés, ceux qui croyaient qu'ils avaient toute la connaissance de Dieu parce qu'ils baptisaient. Ensuite, il y a la question du pu. Pour cette femme aussi, elle était proche de Dieu parce que c'est la Samarie qui a gardé le pu de Jacob et qui adore sur la montagne. N'oubliez pas que quand ils ont quitté l'Égypte, Dieu les a rencontrés, Dieu a rencontré Moïse sur la montagne. Donc, pour elle, c'est une façon plus de croire en Dieu que d'aller sur la montagne pour adorer Dieu. Et dans certaines congrégations aujourd'hui, au lieu de considérer qu'on se retire, pas parce que Dieu est sur la montagne, mais c'est pour avoir l'esprit calme, pour chercher Dieu en esprit. Cette question de montagne, de la Samarie, est restée dans la tête des chrétiens au point où, même lorsqu'on va à Beauvais, où il n'y a pas de montagne, on dit Maïtojimawa. Même lorsqu'on va à Zangira, quelque part pour prier, ou à Tivier quelque part pour prier, on dit, ou à Mepé quelque part pour prier, ou à Zaou quelque part pour prier, on dit, Maïtojimawa. Donc, pour cette femme, elle n'a aucun souvenir de ce que représente l'eau. Même pour ceux qui baptisaient, ils n'avaient aucun souvenir de ce, ils n'ont aucun souvenir de ce que représente l'eau. Pour cette femme qui puisait l'eau, elle n'a aucun souvenir de ce que représente l'eau. Plus encore, cette femme comparait, était en train de comparer l'adoration des Samaritains avec l'adoration des Juifs. Et voyez même qu'il n'y a aucune relation entre les Juifs et les Samaritains. Tous fils de Jacob et tous fils d'Isaac, tous fils d'Abraham, tous fils de Dieu. Le problème qui se pose, c'est leur compréhension de ce qu'on appelle Dieu, de qui il est, leur compréhension de ce qu'on appelle Jésus-Christ, de qui il est, y compris les pharisiens, y compris les disciples, y compris les samaritains, y compris les Juifs. Ce passage voudrait tout simplement rappeler le don de Dieu, le don de Dieu pour les hommes, je veux dire Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est l'Esprit de Dieu. Mais tous ceux qui étaient là parlaient plus de ce qui n'était pas Jésus-Christ. Ils avaient une vision, une compréhension charnelle de ce qu'était Jésus-Christ. Ils avaient un héritage. C'est comme beaucoup d'entre nous aujourd'hui qui sont attachés à la Bible à travers les lois de Moïse ou d'autres lois, mais qui n'arrive pas à saisir ce qu'est Jésus-Christ. En réalité, ce passage voudrait rappeler la première rencontre de Dieu avec Abraham. Cette rencontre a été faite avec pour témoin et les Samaritains et les Juifs qui étaient les disciples de Jésus-Christ et les pharisiens, etc. Donc les deux peuples issus d'Abraham qui ont été divisés après le péché de Salomon, du roi Salomon, ces deux peuples se voyaient comme des ennemis et n'avaient pas cherché à comprendre pourquoi ils existaient. Leur jugement était basé tout simplement sur les héritages qu'ils avaient, ce qui se passait en ce moment-là, et c'était tout. Le souvenir oublié, c'est l'une des premières paroles prononcées par Dieu pour bénir Abraham, qui a été rappelé plusieurs fois dans Genèse 12 au verset 3. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Les souvenirs oubliés. Le deuxième souvenir se trouve dans le verset 2 du chapitre 12 de Genèse, qui dit, et je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Les Israélites, les Samaritains comme les Juifs ont oublié qu'ils ne vivaient pas pour eux-mêmes, mais qu'ils vivaient pour porter vers les nations la bénédiction. Ils vivaient pour que la source de bénédiction vienne par eux. Mais finalement, ils vivaient pour eux-mêmes, ils cherchaient pour eux-mêmes. Et ils n'avaient rien compris de l'arrivée de Jésus-Christ, même jusqu'à aujourd'hui. La discussion devant le puits de Jacob est une discussion qui montre les ténèbres dans lesquelles se trouvaient les Samaritains et les ténèbres dans lesquelles se trouvaient les Judéens, les Juifs. Que ce soit la Samarie, que ce soit la Judée, il n'y avait personne qui comprenait vraiment pourquoi Jésus-Christ était venu. La fois dernière, le thème était Cléopas, Thomas ou Pierre. Quel est notre témoignage? Quel est notre témoignage de Jésus-Christ? Quel est notre témoignage concernant notre relation avec Dieu? Le témoignage de cette dame est ce que ce puits appartient à Jacob, ce puits est une est une bénédiction qu'il faut garder avec beaucoup de soin, parce que le grand-père Jacob lui-même a bu de l'eau là-bas et ses troupeaux ont bu de l'eau. Donc on voyait dans ce puits la bénédiction et l'héritage qu'on a reçu. De Dieu. C'est comme ça, la croyance de cette femme, c'était ça. On voyait aussi dans les pratiques que nous avons gardé l'héritage d'aller sur la montagne. Et les Juifs disent que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer. Parce que les Juifs ont gardé le temple de Salomon, le temple de David, que David voulait construire et que Salomon a construit. Les Juifs l'ont gardé et eux, ils savaient depuis ce moment qu'il fallait revenir au temple. Mais ils n'avaient aucune idée de ce que c'est que le temple de Dieu que nous sommes. Et tous se trompaient sur Dieu, mais se réclamaient de Dieu, fils d'Abraham. Les souvenirs oubliés. Je veux dire par ici, je passe maintenant à la question de la nourriture. Lorsque les disciples sont revenus avec la nourriture et qu'ils voulaient que Jésus-Christ mange, Jésus leur dit, Jésus-Christ ne s'est pas intéressé à la nourriture qu'ils étaient allés chercher. Et leur a montré ce qu'est la vraie nourriture, c'est-à-dire c'est de faire la volonté de Dieu. Ma nourriture, verset 34, Jean 4, verset 34, est de faire de la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Et avant cela, il a dit dans le verset 32, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les gens ne se battaient pas pour comprendre Jésus-Christ. Pour se souvenir de tout ce que Dieu a dit, je ne veux pas aller dans les références, à chaque fois retourner dans les références, mais ils avaient plutôt un jugement par rapport à ce qu'ils voient, à ce qu'on leur a raconté à la synagogue ou bien sur la montagne. Donc, c'était très difficile pour les disciples eux-mêmes de rencontrer Jésus-Christ. Ils étaient avec lui, mais n'ont jamais rencontré Jésus-Christ. Si Dieu n'avait pas décidé de revenir lui-même à l'homme comme il a rencontré Abraham, personne ne pourrait être sauvé. Le monde pense qu'il est sauvé. Même nous qui écoutons, nous pensons que nous sommes sauvés. Sauf que nous ne voyons pas très bien où se trouve notre relation vraie avec Dieu, parce que les choses auxquelles nous nous intéressons dans nos prières, ce sont des choses qui ne sont pas nécessairement les priorités ou bien qui ne sont pas les urgences. Ou qu'ils ne sont, ce sont les choses auxquelles Jésus-Christ ou Dieu ne s'intéresse pas. Parce que pour Dieu, pour Jésus-Christ, ces choses sont déjà créées. Les choses pour lesquelles Jésus-Christ nous appelle sont plutôt spirituelles. Mais ni les apôtres, ni les pharisiens, ni les apôtres, ni la femme qui a rencontré Jésus-Christ. Ni les, comment l'appelle-t-on, ceux qui sont, ceux que la femme a appelés, personne ne savait vraiment. Qu'est-ce, pourquoi, à quoi, quel devait être le souvenir? Qu'est-ce qu'il fallait chercher? Chacun voulait montrer, et même ce que la femme est allée chercher, au lieu de chercher Dieu, ils ont encore ramené la question à eux-mêmes. C'est-à-dire, verset 42, il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Il se comparait tout simplement aux autres, à la femme. Mais la suite montrera que si la déclaration qu'ils ont faite jusqu'à aujourd'hui, ils ne vivent pas cette déclaration. Même la femme a dit, nous savons, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Ici se trouve, dans ces deux versets 32, verset, pardon, 25 et verset 42, se trouve encore quelque chose. Les Juifs pour qui Jésus-Christ est venu n'ont même pas le souvenir du Messie, de Christ qui devait venir. On dirait ici que les Samaritains attendaient plus, avaient plus une idée claire d'un Messie qui viendra, d'un Sauveur du monde qui viendra, que les Juifs eux-mêmes. Les souvenirs oubliés. Dieu a dit à Abraham que par lui viendra la bénédiction du monde entier. Et vous pouvez lire ça dans plusieurs passages dans Genèse. Vous pouvez feuilleter peut-être après pour le savoir. Tu seras une source de bénédiction pour toutes les nations et toutes les familles de la terre qui seront bénies en toi. C'est une bénédiction prononcée, c'est une promesse faite à Abraham, et cette promesse était en train de se réaliser. Cette promesse était en train de se réaliser devant les Samaritains et les Juifs, parce que les Samaritains et les Juifs avaient oublié que Jésus-Christ serait la source de bénédiction et que même porte en eux cette espérance. Mais ils n'ont pas reconnu Jésus-Christ. La femme pensait que c'était à lui, en tant que fille, petite fille de Jacob, c'était à elle de donner de l'eau à Jésus-Christ. Et les disciples aussi croyaient que c'est à eux d'apporter de la nourriture à Jésus-Christ. Voici ce que nous pensons souvent. Et de sorte que dans nos prières, parfois, nos prières se passent comme si c'est nous qui donnions des ordres à Dieu. Nos prières sont, se font dans un sens d'oubli de ce que nous devons chercher. Qu'est-ce que nous devons rechercher cette nuit? Qu'est-ce que nous devons chercher? Nous devrions chercher. Qu'est-ce que nous devons chercher pour les jours à venir? Qu'est-ce que nous devons chercher le jour de la Pentecôte? C'est l'eau vive. Jésus-Christ. Nous devons nous souvenir que Jésus-Christ, la source des bénédictions, est de l'eau vive et de la nourriture. Il avait dit la fois dernière, nous l'avons lu, que celui qui ne mange pas sa chair et ne boit pas son sang ne vivra pas. Pourtant, tu es vivant, bien vivant. Ici, il s'agit de l'eau, celui qui est l'eau vive même. Et la nourriture, Jésus-Christ nous dit que nous devons nous renforcer avec une nourriture qui va en nous, qui nous bénit, c'est-à-dire porter des fruits. Cela veut dire publier la parole de Dieu, de sorte que la multitude croit en Dieu et vienne adorer Dieu en esprit et en vérité. Voici le sens de ce grand passage. Il faut que nous cessions de voir le pu, de voir l'eau du pu, et que nous recherchions l'eau vive. Il faut que nous cessions de voir la nourriture pour laquelle nous concourons, et que nous voyons plutôt les champs qui ont blanchi, qu'il faut récolter. Il faut que nous cessions de faire des prières en intelligence. Il faut que nous cessions de penser que Dieu est loin, soit à Jérusalem. Moi, je voudrais bien aller en Israël pour connaître cette terre que Dieu a donnée à Israël, mais pas pour nécessairement, pas pour avoir un Dieu qui est dans le temple de Jérusalem. Non, Dieu est en moi, il est avec moi, il est avec toi, il est avec nous. Et celui-là qui était avec la femme s'appelle Dieu est avec nous. Emmanuel. Mais tout le monde l'a oublié. Il faut que tu crois, que tu cherches Dieu en esprit. Que tu rencontres Dieu en esprit, que tu adores Dieu en esprit, pour que tes inquiétudes deviennent de la joie pour toi. La femme qui était venue puiser de l'eau avait un puits, mais vivait avec des inquiétudes. Elle n'a pas pu tenir devant plusieurs hommes qui sont ses maris. Beaucoup condamnent très rapidement cette femme, mais nous oublions que nous-mêmes, nous vivons comme cette femme. C'est-à-dire que dans les inquiétudes, Et comme on dit dans notre langue, Ekpehoram, Atikoram, quand nous sommes emportés, nous voyons que les vagues nous emportent. Nous inventons toutes sortes de prières, toutes formes de prières. Et il y a des gens qui sont spécialistes de voilà comment il faut prier maintenant. Ah non, certains sont spécialistes de voix. Certains sont spécialistes de. Des gens ont vu même que Jésus-Christ, on peut le diviser dans la tête, le bras, les pieds, je ne sais pas comment ils font, mais certains ont divisé le Jésus-Christ même pour prier pour, je ne sais quoi, cette partie de Jésus-Christ, pour le corps de Jésus-Christ, cette partie de Jésus-Christ. Chose étrange qui n'existe même pas dans la Bible. La Bible nous recommande tout simplement de ne pas oublier Jésus-Christ, de ne pas oublier que nous vivons la bénédiction de Dieu à travers Jésus-Christ et que nous avons cette bénédiction à travers le Saint-Esprit qui est Jésus-Christ, qui donne tout en tout temps et qui ne nous abandonne jamais. Mais lorsque nous commençons par nous souvenir du pu, de l'eau de Jacob, de la nourriture, du baptême, vous verrez que dans Hébreux, il est dit que nous devons être au-dessus de ces considérations et ne plus être comme des enfants qui sont à la bouillie, au lait, même pas à la bouillie. Le dictionnaire français dit que le souvenir, c'est l'impression que la mémoire conserve. Les souvenirs oubliés, c'est ce que notre mémoire devait conserver, mais que nous avons oublié. C'est la faculté même de la mémoire. C'est notre capacité à pouvoir et garder et l'essentiel. C'est un objet acquis dans le but de se rappeler un lieu, quelque chose ou quelqu'un. Le puits acquis dans le but de se rappeler Dieu. C'est le puits de la dame, l'eau du puits. Dans le puits, c'est la montagne. Dans le but de se rappeler ce que c'est, qui est Dieu. Ce qui reste du passé est le remémore. Qu'est-ce qui est resté dans tout ce que nous connaissons de la Bible et que nous remémorons? C'est la commémoration. Donc, à chaque fois que nous nous approchons de Dieu dans la prière, c'est une commémoration de souvenirs de ce que fait que Dieu, de qui est Jésus-Christ. Que chacun continue de prier pour mieux comprendre ce passage, bien comprendre ce passage, parce que la vie des chrétiens est plutôt la relation des chrétiens avec Dieu est plutôt sur le pu, sur l'eau du pu, sur la nourriture qui va venir de la ville, sur notre contribution à baptiser d'autres disciples. Et nous n'avons pas ce souvenir que non seulement nous sommes bénis en Jésus-Christ et que nous devons, à travers cette bénédiction qui vient du Saint-Esprit, être même une source de bénédiction pour les autres. Et finalement, tout se passe comme si Nous nous battons pour notre propre bénédiction, nous ne nous en sortons pas parce que nous avons confondu et ce qui nous avons confondu l'objet acquis qui n'est pas le but, c'est-à-dire l'objet acquis dans le but de se rappeler Dieu. Et non, c'est-à-dire, nous rappelons plutôt pour nous l'objet acquis. Notre réunion de prière, nos prières se penchent plus sur le but et non sur. Pourquoi Jésus-Christ est passé à côté de ce but qui date de plusieurs siècles? Pourquoi il est passé à côté de ce puits? Pourquoi Jacob avait acheté ce puits? Pour rappeler aux Israélites la vie qui vient de l'eau vive et non la vie qui vient de l'eau de ce puits. Et cette vie qui est éternelle, n'oubliez pas que c'est Canaan. Je ne sais pas si vous avez une bonne souvenance de ce que c'est que ce pays dans lequel Jésus-Christ est passé. Abraham est passé sur cette terre, mais on dit dans la Bible qu'il a vu de loin. Isaac est passé sur cette terre. Jacob est passé sur cette terre et a laissé ce puits. Mais dans le but de se souvenir que le Saint-Esprit Jésus-Christ viendra pour faire de nous, non seulement pour nous bénir, mais pour faire de nous une source de bénédiction. Donc, si nos prières s'arrêtent à nos problèmes, c'était le comportement des pharisiens, le comportement des disciples, le comportement de la femme, de la Samaritaine. Dieu nous bénisse.